Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
20 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l'opinion publique internationale découvre l'ampleur du mensonge sur les conséquences du drame, un mensonge organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique et le lobby des grandes puissances nucléaires, dont la France. Loin des projecteurs, les rescapés oubliés de Bhopal réclament que le site pollué de la catastrophe soit décontaminé. Pour se faire entendre, ils en sont réduits à une grève de la faim. Depuis 20 ans, rien n'a été fait. Il est vrai que ce sont des pauvres. Pollution, surpopulation, pêche excessive et baisse du niveau de ses eaux, le lac Victoria se meurt, le deuxième lac d'eau douce du monde est en piteux état. Vous l'aurez compris, notre magazine cette semaine n'est guère réjouissant, surtout lorsque l'on découvre qu'au drame s'ajoute le mensonge d'État. Il faudra pourtant bien que l'on prenne toute la mesure du mensonge organisé autour de la catastrophe de Tchernobyl par les plus hautes instances politiques et institutionnelles internationales. Un véritable crime contre l'humanité et contre la vérité scientifique. Dans un livre réquisitoire après 15 ans d'enquête, le documentariste d'origine russe Vladimir Tchertkov vient de publier « Le crime de Tchernobyl, le goulag nucléaire » chez Actes Sud. Un livre dont les droits d'auteur iront aux enfants contaminés de Biélorussie. Un livre phare pour comprendre que les braises de Tchernobyl ne sont pas éteintes. Surtout en Biélorussie, mais aussi en Ukraine. Deux chercheurs biélorusses, dont l'un a été emprisonné pendant 5 ans, avaient pourtant vu juste. La radioactivité, même à faible dose, toujours présente dans une région grande comme un quart de la France, empoisonne les habitants, plusieurs millions de personnes. Il s'agit d'une découverte qui bouscule l'idée établie depuis Hiroshima, selon laquelle le principal effet à attendre de la radioactivité est le cancer, alors que de multiples pathologies sont aujourd'hui décelées. Mais tout cela dérangeait le lobby nucléaire.
Il y a eu un accord qui est officiel, d'ailleurs on le trouve sur les sites de l'ONU, de l'OMS et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un accord signé en 1959 entre ces deux agences de ne rien entreprendre dans le domaine nucléaire du point de vue des recherches ou de l'information sans l'accord des deux agences. Or, l'une est promotrice des centrales nucléaires, l'autre promotrice de la santé. Il y a un conflit d'intérêts évident entre les deux en cas de pépin. Or, après Tchernobyl, c'est criminel parce que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est formée de physiciens et pas de médecins, s'est appropriée du travail pratiquement de l'OMS, lui a interdit toute action de recherche et d'information et a officialisé des chiffres qui ne correspondent à rien, qui correspondent simplement à ce qui est tolérable pour que l'industrie nucléaire ne soit pas compromise à cause des effets catastrophiques qui, en réalité, sont constatés aujourd'hui, mais déjà depuis des années, sur les terrains contaminés par l'explosion et l'incendie de la centrale de Tchernobyl.
Alors, de fait, ce mensonge aura été très dommageable, puisque les mesures adéquates n'ont pas toujours été prises pour soigner les personnes qui vivaient directement dans le périmètre de cette centrale et les pays voisins. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire? Il semble aussi qu'un rapport vient de contredire l'ONU sur les prévisions des victimes directes et indirectes.
Les mesures de sauvegarde, de protection et de soins de la santé des personnes touchées par cette radioactivité n'ont jamais été prises et jusqu'à maintenant, on refuse de les prendre en considération. On considère que la catastrophe sanitaire qui sévit dans les territoires contaminés par Tchernobyl sont causées par la radiophobie, le stress, l'économie pauvre, l'alcoolisme, soi-disant, etc. On sait maintenant que des dizaines de milliers, par exemple, de liquidateurs sont morts. Des centaines de milliers sont invalides. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique continue à parler. Aujourd'hui, elle parle de 57 morts. 57, pas 57 000. 57 morts. Jusqu'en septembre dernier, c'était 32. Ils ont fait ce petit progrès d'arriver à 57. Ce qui paraît totalement ahurissant, y a-t-il une logique quelconque qui permette de dire un mensonge pareil? Eh bien, elle existe en effet. Cette logique, elle est dans le fait qu'on explique un accident comme Tchernobyl, qui est un fait unique dans l'histoire de la science et dans l'histoire humaine, par un autre phénomène nucléaire également unique dans l'histoire du monde, qu'ont été les bombes de Hiroshima et de Nagasaki. Ce sont deux phénomènes qui n'ont rien de semblable en réalité, et recouvrir Tchernobyl par ce qu'on a constaté, ce qu'on a calculé suite à l'explosion des deux bombes, est une façon de camoufler une réalité par une autre, ce qui permet de l'ignorer complètement. C'est là que s'est établi le dogme, ce qu'on appelle le dogme d'Hiroshima. Il faut avoir des doses très violentes d'exposition externe pour pouvoir avoir des pathologies qui sont essentiellement des cancers. À Tchernobyl, il n'y a pas eu d'explosion atomique, une explosion thermique et un incendie qui a duré 10 jours en déversant sur les territoires ces fameux éléments radioactifs qui ont été projetés par les bombes dans la stratosphère. Et ces éléments sont tous retombés autour de Tchernobyl, mais autour, ça veut dire des taches de contamination énormes, jusqu'à 300-400 kilomètres. Les taches de très forte contamination au sol sont bien plus étendues que ce que reconnaît encore aujourd'hui l'Agence internationale en parlant du fameux rayon de 30 km autour de la centrale. Ces éléments radioactifs donc ont recouvert des superficies énormes. Ils ont fait d'ailleurs le tour de la Terre parce que les éléments les plus volatiles, les aérosols, ont fait plusieurs fois le tour de l'hémisphère nord de la planète. Mais sur le sol, dans les territoires les plus contaminés, la chose est catastrophique parce que depuis 20 ans, les populations se nourrissent là-bas d'aliments contaminés parce que ces éléments radioactifs, le césium par exemple, qui est le plus répandu et qui est le plus facile à détecter d'ailleurs par des instruments plus simples, a une durée de vie de 3 siècles. Eh bien, la part soluble de ce césium-137 entre dans la chaîne alimentaire à travers la racine des plantes, les vaches qui paissent dans l'herbe contaminée, donnent du lait contaminé. Les gens se nourrissent de tout cela et les chercheurs, la science officielle, dominée justement par le dogme Hiroshima à travers les agences internationales, se base simplement sur la notion de dose. La dose, c'est ce qui a été calculé à de très hauts niveaux à Hiroshima. Alors que dans le cas de Tchernobyl, il ne s'agit plus de l'élément négatif des doses, exposition externe, mais d'effets de proximité, c'est-à-dire quand vous ingérez ou vous inspirez des radionucléides, ils s'incorporent dans l'organisme, ils se distribuent d'ailleurs de façon inégale à travers les organes, comme si vous inspiriez ou vous ingériez un poison qui est à la fois toxique et radioactif.
Vous parlez d'alimentation et de gens qui n'ont pas été éloignés non plus au-delà d'un certain cercle d'une trentaine ou de 50 kilomètres, je ne sais plus exactement.
Par exemple, dans la seule Biélorussie, 2,5 millions de paysans vivent dans les territoires les plus contaminés au sud, sud-est et sud-ouest de la Biélorussie, dont 500 000 enfants qui depuis 20 ans se nourrissent d'aliments contaminés, ingestion chronique, contre laquelle l'organisme est incapable de résister tout seul. L'organisme lutte toujours contre tout ce que nous ingérons de toxique, l'organisme l'élimine. Mais vu que d'énormes quantités sont ingérées sans se rendre compte, parce qu'il y a une désinformation totale sur cet aspect, sur ce mécanisme interne, évidemment, en cascade, disons, une co-responsabilité au niveau local, au niveau de l'État biélorusse, qui tout seul n'est pas capable d'affronter cette tragédie avec les moyens économiques qu'il a, mais couvert au-dessus par les États nucléaires, qui eux-mêmes sont couverts par les agences de l'ONU, qui, elles, refusent de considérer la possibilité même d'une pathologie qui puisse exister à des niveaux aussi bas de radioactivité. Et le seul qui ait systématiquement étudié ça, on l'a mis en prison, évidemment sans le déclarer, même si Amnesty International l'a adopté comme prisonnier de conscience à cause de ses recherches et à cause de la publication qu'il en a faite.
Alors le problème, vous parlez de cette nature que vous avez parfois arpentée pour prendre des données, faire des relevés. Cette nature justement se présente comme une nature belle, qui n'a pas, disons, de stigmates visibles. Et donc les gens finalement ont l'impression de vivre dans un milieu très sain.
Exactement. Ils ne voient rien, ils ne sentent rien. On n'a aucun sens pour percevoir la radioactivité.
On parle beaucoup, donc, vous l'avez évoqué, de cancer, de la thyroïde. Il y a d'autres maladies, il y a d'autres symptômes, notamment aussi, je crois, des maladies psychiques, qui sont nombreuses, notamment parmi les liquidateurs qui n'ont pas que des cancers.
Exact. Tous les organes vitaux sont touchés à Tchernobyl, comme je vous le disais. Tchernobyl ne fait que commencer. C'est l'héritage que nous lançons dans le futur à nos progénitures. Et voilà le vrai crime. Le livre que je viens de sortir, c'est Le crime de Tchernobyl. C'est un crime lucide, c'est un crime programmé pour camoufler, pour cacher, pour protéger une industrie qui n'est pas capable de se défendre sinon par le mensonge.
Rien n'est rassurant dans ce que vous dites, et c'est d'autant moins rassurant que 20 ans après Tchernobyl, la hantise du nucléaire s'amenuise, d'autant plus qu'il semble que pas mal de pays, notamment européens, voudraient y revenir pour des questions de production d'énergie. Est-ce que tout ça est peu rassurant ?
Tout cela est dramatique, parce que vraiment l'humanité est en train de choisir si elle veut se suicider, ça c'est mon opinion réelle, profonde, personnelle, ou si elle doit changer de régime. L'humanité, d'ailleurs, c'est beaucoup dire, c'est la partie minoritaire hyper riche du globe terrestre. Nous sommes dominés par l'atome militaire, à travers également l'atome, les centrales civiles. Tout cela est une chaîne verticale dont le commandement est dans le Conseil de sécurité, à savoir les grandes puissances nucléaires de l'origine, parmi lesquelles une des plus nucléarisées est la France d'ailleurs. Et ce qui est troublant, c'est qu'aucun État ne se rebelle, aucun gouvernement ne se rebelle devant ce crime.
Alors vous venez de citer la France, puissance nucléaire par excellence. On se souviendra, à l'époque, le nuage de Tchernobyl n'avait pas passé la frontière française.
Oui, il s'est avéré que c'était un mensonge qui est devenu public, vu qu'il y a un procès en cours contre ce mensonge de la part des malades de la thyroïde en France.
Autre catastrophe et scandale, oubliez celui-là, Bhopal. Il y a 22 ans, une fuite de gaz toxique dans une usine de pesticides, propriété de la multinationale américaine Union Carbide, causait la mort de plus de 7000 personnes. Mais depuis, ce sont au moins 15 000 personnes qui sont mortes et au total, quelque 800 000 personnes ont été affectées à des degrés divers. 40 rescapés ont entamé, il y a une dizaine de jours, une grève de la faim après avoir marché jusqu'à New Delhi, un mois de marche depuis Bhopal. Outre le nettoyage du site, ils réclament notamment de meilleurs soins aux victimes, la décontamination du réseau d'alimentation en eau qui est pollué depuis la fuite. Le témoignage de Dominique Lapierre, qui a pris à cœur cette cause en construisant une clinique gynécologique pour les victimes les plus pauvres. Une clinique construite avec les droits d'auteur de son livre. Il était minuit 5 à Bhopal.
Écoutez, je crois qu'il faut d'abord rappeler ce qu'a été la catastrophe de Bhopal, la plus grande catastrophe de tous les temps. Industriel, 30 000 personnes tuées dans une seule nuit le 2 décembre 1984, 500 000 personnes touchées par cette émanation de gaz, et 22 ans après, les plus pauvres de ces victimes n'ont toujours pas reçu de compensation financière, elles n'ont pas reçu de traitement médicaux adéquats, parce que la compagnie Union Carbide, qui avait construit cette usine de pesticides, n'a jamais révélé la composition exacte du gaz qui s'est échappé cette nuit fatale du 2 décembre 1984. Donc, des traitements spécifiques n'ont pas pu être organisés. Aujourd'hui, il reste 8000 tonnes d'effluents toxiques au pied de l'ancienne usine d'Union Carbide à Bhopal, ce qui fait qu'à chaque mousson, les nappes phréatiques qui alimentent les puits pour des dizaines de milliers d'habitants vivant dans les bidonvilles autour de l'ancienne usine sont polluées. Bref, 22 ans après, le scandale continue. Mais voilà qu'il y a à peu près un mois et demi, une centaine de ces survivants, la plupart des femmes d'un courage admirable, ont entrepris une marche à pied depuis la ville de Bhopal, qui se trouve située au cœur de l'Inde, 900 kilomètres pour aller jusqu'à la capitale New Delhi, demander que, au moins, elles, leurs enfants, puissent avoir un accès à une eau décente, à une eau potable. Et comme elles n'ont pas été reçues par le Premier ministre, comme personne ne s'est vraiment préoccupé de ce sacrifice, elles ont entrepris, ces femmes, elles sont arrivées 45 à Bhopal il y a une quinzaine de jours, elles ont entrepris une grève de la faim, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est une arme très courante en Inde. Il faut se souvenir que le Mahatma Gandhi avait chassé les Anglais de leur empire colonial en entreprenant des grèves de la faim. Voilà le scandale qui aujourd'hui se perpétue, qui est d'autant plus un scandale qu'aucun journal dans le monde, à part un journal espagnol, ne parle de cette grève de la faim pour des victimes d'une folie industrielle qui, je le rappelle, a fait 30 000 morts et 500 000 blessés.
Le problème finalement fondamental n'est-il pas la vulnérabilité de cette population ? Cette vulnérabilité est totale, ces gens n'ont aucun recours. Comment va-t-on sortir de cette situation ? Pourquoi le gouvernement fait-il barrage et blocage et la sourde oreille ?
Parce que quand on est pauvre, on n'a aucune voix. Quand j'ai écrit, il était minuit 5 à Bhopal, des amis indiens m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu écris un livre sur cette catastrophe ? Personne dans le monde s'intéresse à des milliers d'Indiens qui ont été les souffre-douleurs de cette entreprise industrielle. » Parce que le gouvernement indien, les autorités indiennes ne veulent plus tellement entendre parler des naufragés de Bhopal. Et dans le reste du monde, c'est la même chose.
Au niveau juridique, le problème est-il que finalement Union Carbide a été rachetée ?
C'est-à-dire que Union Carbide a été rachetée par un autre géant de l'industrie chimique qui s'appelle Dow Chemicals. Et Dow Chemicals a déclaré Urbi et Orbi qu'ils n'étaient pas en Inde en 1984, qu'ils n'ont aucune responsabilité dans l'origine de cet accident. Donc on ne peut pas les obliger à verser des indemnités, mais au moins si on pouvait les obliger à nettoyer le site qui aujourd'hui encore héberge ces milliers de tonnes d'effluents toxiques, au moins on aurait fait un grand pas en avant, même si ce n'était pas des indemnités financières qui étaient versées à ces pauvres de l'Inde. 300 millions de dollars ont été donnés dans un accord avec le gouvernement indien pour solde de tout compte par la compagnie Union Carbide quelque temps après l'accident. Mais vous savez qu'en Inde, qui cultive vraiment des réseaux de corruption très organisés, ces 300 millions de dollars ne sont jamais arrivés dans les poches des pauvres. Moi, je connais à Bhopal des gens de l'establishment, des gens riches, on pourrait dire, qui vivent sur les collines au-dessus de la ville, c'est-à-dire des endroits où la nappe de gaz n'est jamais arrivée. Ces gens ont touché, eux, des indemnités. Mais les pauvres qui habitaient dans les bidonvilles immédiatement autour de l'usine, parce que c'était formidable de pouvoir travailler dans une grande usine, une grande entreprise américaine, ces pauvres, eux, n'ont jamais reçu les compensations qu'ils méritaient.
De temps en temps, un journaliste s'y intéresse, et puis plus rien. Le lac Victoria se meurt pourtant. Un film documentaire, Le cauchemar de Darwin, en avait parlé il y a quelques années, créant même la polémique, mais la situation n'a guère changé, elle a même empiré. Entre désastres écologiques et humains, business, trafic en tout genre, armes et prostitution compris. Dernier problème en date, la baisse du niveau des eaux du deuxième plus grand lac d'eau douce du monde, considéré comme la source du Nil, partagé par l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Nous en parlons avec Adrien Demune, notre correspondant dans la région.
Oui, le problème de la baisse du niveau des eaux, il est très visible. Quand on s'approche du lac Victoria, désormais, presque tous les pontons sont à sec, donc les bateaux n'arrivent plus dans les ports. Presque tous les ports de pêcheurs sont également à sec, donc les pêcheurs sont obligés de mettre leurs bateaux très loin du rivage. On estime à peu près à 2 ou 3 mètres la perte du niveau des eaux du lac, de ce lac qui est le plus grand du continent africain. Donc en chiffres, en gros, si on résume là ce que ça représente, ça veut dire que dans un lac pareil de 68 000 km², ce serait environ 120 milliards de mètres cubes d'eau qui se sont évaporés depuis 4 ans. Alors la cause apparemment est multiple. Le gouvernement ougandais a longtemps accusé la période de sécheresse qui effectivement existe, mais qui est quand même relative dans la région. Des experts, par contre, accusent la création de barrages aux sources du Nil, près de la ville de Jinja. Deux barrages ont été construits ces 15 dernières années au même endroit. Le dernier a été construit en 2002, il s'appelle le barrage de Kira. Il a été construit notamment avec des fonds de la Banque mondiale. Mais il a été construit juste à côté de l'autre et il semblerait que ces deux barrages construits côte à côte sucent littéralement le lac, qui aurait donc perdu son eau à cause, en majeure partie à cause de la création de ces deux barrages. De fait, le gouvernement ougandais, sous la pression internationale, a fini par les fermer en partie, ces deux barrages, et on espère désormais que les eaux vont remonter.
Alors malheureusement, cette baisse du niveau des eaux n'est que le dernier en date, je dirais, des problèmes auxquels ce lac est confronté depuis un demi-siècle maintenant. Dans les années 50, déjà, l'introduction de la perche du Nil a constitué un problème. Certains parlent même de véritables désastres écologiques.
Oui, effectivement, vous faites peut-être allusion à ce documentaire de l'Autrichien Soper sur la perche qui mettait un parallèle entre les ventes d'armes en Afrique et le pillage des ressources naturelles à travers les perches. Il faut dire que les perches du Nil, c'est un poisson qui existe dans le lac Albert. Le lac Albert, c'est un lac riverain entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, dans le nord-ouest de l'Ouganda. Donc la perche existait là-bas sans nuisance particulière. Et dans les années 50, les Anglais avaient décidé d'introduire cette perche dans le lac Victoria, pensant pouvoir développer ainsi un poisson qui peut peser dans les 200 à 300 kilos et dont la chair est assez facile à cuire et assez appréciée, notamment en Europe. Ce qui s'est passé, c'est que dans le lac Victoria, il y avait une diversité bien plus grande que dans le lac Albert et que l'introduction de ces perches, qui sont très voraces, a conduit à la destruction de près d'un tiers des espèces existantes. On estime qu'à peu près une centaine d'espèces ont disparu. Mais en échange, les pêcheurs du lac Victoria ont la possibilité de pêcher ces perches et donc d'avoir des bénéfices bien plus importants que ce qu'ils avaient auparavant avec les espèces qui existaient avant et qui sont des espèces beaucoup plus petites et beaucoup plus difficiles à vendre, notamment sur le marché international. Donc de nombreuses usines se sont construites, le prix du poisson a fortement augmenté et l'équilibre du lac est en danger, non seulement à cause de l'introduction de la perche qui a fait disparaître certaines espèces et dont la surpêche menace l'ensemble des poissons dans le lac, mais aussi parce que les pêcheurs sont devenus tellement nombreux que désormais les poissons n'ont même pas le temps de se reproduire, le cycle de reproduction est menacé.
Alors vous évoquez l'un des autres problèmes qui devient peut-être le problème majeur, à savoir la surpopulation des rives de ce lac Victoria. Je crois qu'on parle d'une trentaine de millions de riverains, ce qui en fait une des zones les plus peuplées au monde, non ?
Oui, effectivement, à la région des Grands Lac est une des régions les plus densément peuplées au monde. Ce sont des États qui sont encore très proches des ethnies, donc des États composés d'ethnies qui chacune sont souvent en concurrence et donc il s'agit pour chacune d'elles de faire un maximum d'enfants dans l'idée de ne pas se faire dominer par l'ethnie voisine. Alors comme en Ouganda il y a environ 40 ethnies, au Rwanda ou au Burundi c'est plus simple, il y en a que 2 ou 3, mais en Tanzanie il y a également des dizaines d'ethnies. Chaque ethnie continue à vouloir faire un maximum d'enfants, ce qui fait que la moyenne dans la région et de 7 enfants par femme. La pression sur les terres et sur les eaux du lac, de tous les lacs d'ailleurs, pas seulement du lac Victoria, est telle que beaucoup d'experts se demandent qu'est-ce qui va devenir dans 10 ans. Est-ce qu'il va rester un arbre? Est-ce qu'il va rester un poisson dans 10 ans?
Alors, est-ce que finalement, vu que ce lac est partagé par 3 pays, donc la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, est-ce que finalement des politiques sont mises sur pied en partenariat
Oui, effectivement, il y a des tentatives de partenariat entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, mais c'est difficile parce que la pêche est quand même largement informelle. La plupart des poissons sont pêchés par des pêcheurs qui ne sont pas enregistrés, qui ne déclarent pas les produits de leur pêche. Donc le contrôle de la pêche dans le lac est quasiment inexistant. Dans les faits, c'est l'anarchie la plus totale et on ne voit pas à court terme comment cela pourra cesser tant que les pêcheurs ne sont pas dûment enregistrés et ne déclarent pas les produits de leur pêche. Il y a une espèce de cercle vicieux qui fait que cette région du monde va droit dans le mur en termes écologiques, dans la mesure où sans arbres, avec moins en moins de poissons et sans aucune possibilité de trouver d'autres moyens de revenus. Il y a une espèce de course aveugle à la survie qui s'annonce.
Et je vous rappelle que les droits d'auteur des livres Le crime de Tchernobyl, Le goulag nucléaire chez Actes Sud et D'il était minuit 5 à Bhopal chez Lafont sont versés au profit des victimes des deux catastrophes. Merci à Vladimir Tcherkov, merci à Dominique Lapierre et à Adrien Demune. Fin de ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine.